Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez ajouté un moment de gloire à la chanson française en un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, un passé encore très présent. À l'heure, vous ajoutez à ce palmarès des notes résolument intemporelles. Bonjour Corinne Hermès.
Bonjour Jacques et merci de me recevoir.
C'est une joie de vous retrouver puisque bon, on vous connaît à travers des succès et un Grand Prix Eurovision dont on va parler tout à l'heure. Et vous revenez avec un album intemporel dont on va également parler. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 1er février 1980. C'est le deuxième anniversaire de ce lieu dont l'animateur est une voix bien connue. Le paradis latin. Et le paradis latin, je crois que vous y avez dansé.
Oh là là, j'ai fait un numéro de Liza Minnelli pendant 2 ans. Je suis restée 2 ans au paradis latin.
Mais je me souviens de vous, je vous ai vu plusieurs fois. J'y étais assez souvent le soir.
Oui. Ah oui, alors effectivement, je me souviens avoir passé une audition. C'était d'ailleurs un ami musicien qui m'avait conseillé d'apprendre cabaret de Liza Minnelli parce que Jean-Marie Rivière était un grand amoureux de Liza Minnelli. Et donc, grâce à lui, j'ai passé ce numéro et j'ai passé l'audition. Et dès qu'il m'a entendu, il m'a engagé direct. Mais alors, Jean-Marie Rivière, bien sûr, Jean-Marie Rivière, un grand monsieur du music hall, mais je peux vous dire que j'en avais bavé, Jacques.
C'est-à-dire qu'il fallait descendre l'escalier
en
talons aiguilles.
Non, mais parce qu'en fait, c'était quelqu'un de très, très perfectionniste. Il était extrêmement sévère. Mais je peux dire que grâce à lui, j'ai vraiment appris ce qu'est le métier de la scène. Voilà. La précision de la scène.
Et oui, et dans au paradis latin, en même temps que vous, il y avait un débutant qui s'appelait Arturo Brachetti.
Oui.
Et il y avait un numéro d'une baignoire avec des brosses à dents humaines, avec un garçon, Serge Davry, qui cassait des assiettes sur sa tête. Vous vous en souvenez ?
Oui, tout à fait.
C'était extraordinaire, surréaliste.
Oh, incroyable.
Alors, la chanson, c'est depuis toujours pour vous. Vous êtes né à Lagny-sur-Marne, comme Thierry Ray et Paul Pogba, apparemment. Qui sont également de Lagny-sur-Marne.
Ah oui.
Et vous avez grandi entre la porte de Montreuil et celle de Bagnolet dans une famille modeste.
Tout à fait.
C'est-à-dire que vraiment, la chanson, ce n'était pas l'univers familial au départ. Je crois que votre père avait une entreprise de store, Corinne Hermès.
Tout à fait, bien renseigné. Oui, malheureusement, mon grand regret, il n'y a aucun membre de la famille qui chantait.
Et vous avez commencé le piano et la guitare, je crois, à 12 ans.
À l'âge de, oui, à l'âge de 13 ans, on va dire que la guitare fait partie... je compose et je joue de la guitare depuis l'âge de 14 ans et c'est une vraie passion.
C'est venu comme ça, vous ne pensiez pas chanter au départ ?
Bah du tout, en fait, c'est venu à l'âge de... Donc c'était l'année de mes 13 ans.
Il y a un concours, je crois.
Voilà, il y a mon premier concours de chant. Oui. Et nous étions en vacances à Roquebrune-sur-Argence et maman m'avait inscrite à un concours de chant. Et là, ma famille découvre ma voix, moi y compris, c'est à ce moment-là, du coup. Et c'est la première fois que je chantais dans un micro.
Oui, et d'ailleurs, l'animateur était très surpris par votre voix, qui était déjà presque mûre.
Et oui, m'avait-il dit, il me disait, mais c'est assez surprenant pour une jeune fille de votre âge d'avoir une voix puissante comme celle que j'avais déjà pour l'Eurovision.
Voilà, alors vous allez faire des bals d'orchestre, vous travaillez avec Jean-Claude Borelli, je crois, le trompettiste.
Entre autres, oui, j'ai fait en tout et pour tout 3 ans d'orchestre. Et la dernière année, je l'ai passée avec Jean-Claude Borelli, effectivement.
Personnage étonnant, puisqu'il a joué aussi bien dans les églises qu'à Las Vegas.
Oui, oui, oui.
Et il a vendu 15 millions d'albums.
C'est énorme, c'est énorme.
Et puis, il y a eu un premier disque, mais sous un pseudonyme, Corinne Miller.
Ici, dans la ville où je vis, qu'on appelle Paris.
Alors ça, c'est pas encore Corinne Hermès, c'est plus Corinne Blondeau, c'est... Corinne Miller.
Oui, Corinne Miller, premier single écrit par un grand monsieur, Étienne Rodagil. Et savez-vous qui a participé aux arrangements ?
Je crois que c'est Manu Katché.
Bravo, bien renseigné. Mais oui, qui débutait, quel talent avait-il déjà ? Mais pour les gens qui ne savent pas qui est Manu Katché, c'est donc le batteur de nombreux artistes comme Michel Jonas, ouais. Peter Gabriel et bien d'autres.
Alors, comment êtes-vous arrivé à ce premier disque entre ce concours à Roquebrune-sur-l'Argent et cet enregistrement chez Carrère, je crois, Corinne Hermès ?
Eh bien, il y a eu des petites étapes. Donc, j'ai fait d'abord de l'orchestre et puis j'ai fait la rencontre de Jean-Pierre Miller. Donc, je l'ai rencontré, j'avais donc 16 ans.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né... on a fait plein de titres ensemble et
Et Carrère vous a engagé à l'époque pour un premier 45 tours.
Exactement.
Et pourquoi Miller ?
Eh bien, tout simplement parce que Jean-Pierre Miller, c'était donc mon producteur à l'époque. Et bon, il n'a pas été bien loin, du coup, il a dit pourquoi ne pas prendre Corinne Miller ? Voilà. Mais ça a été très court. Hein.
Oui, mais
enfin, ça n'est pas duré très longtemps.
Non, mais enfin, ça vous a permis de débuter parce que vous aviez vraiment, à ce moment-là, envie de faire ce métier.
Ah, complètement. En fait, depuis mon premier concours de chant, le jour où j'ai fait ce premier concours de chant, j'ai su que je serais chanteuse.
Voilà.
Donc ça s'est dessiné très très vite.
En revanche, vous n'avez pas imaginé le parcours que vous auriez. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 23 avril 1983. A tout de suite sur Sud Radio avec Corinne Hermès.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Corinne Hermès. Le retour avec un album intemporel et des dates importantes, parmi lesquelles le 23 avril 1983. Et ça, on ne l'a pas oublié, hein ?
1983, oui, une date que je n'oublierai jamais.
Voilà, car c'est ce jour-là que devant 500 millions de personnes, vous chantez « Si la vie est un cadeau ». Grand Prix Eurovision.
Alors vous imaginez, Jacques, quand j'entends cet extrait, ça a été une expérience pour moi exceptionnelle. J'avais 22 ans.
Oui.
Comme vous disiez, 500 millions de téléspectateurs. En quelques secondes, je suis passée de l'anonymat à la notoriété. J'ai eu des disques d'or. J'ai parcouru le monde entier.
Alors, non, mais cette soirée était étonnante parce qu'en plus, le suspense a été très bref pour vous. Je crois que vous êtes passée la dernière.
Ça a été terrible pour moi. Passer la dernière cette année-là, c'était l'horreur. J'étais dans tous mes états. Parce qu'en plus, j'étais dans un petit bureau. On m'a dit, voilà, vous restez là. Et j'ai attendu toute la soirée comme ça. Ça a été terrible.
Alors, vous êtes là, c'est à Munich, dans une salle de jeu qui a été inaugurée pour les Jeux Olympiques de Munich. Et il y a une innovation importante cette année-là. C'est la première fois qu'on utilise des micros sans fil. Je ne sais pas si vous en souvenez, Corinne Hermès.
Oui, tout à fait.
Et le programme est très long. En plus, il devait durer 2h45, il dure plus de 3h.
Oui.
Et vous chantez. Et est-ce que vous attendiez à ce que les points arrivent comme ça ?
Et oui, j'étais terrorisée, j'étais dans tous mes états, enfin j'étais vraiment très mal. Hein.
Et alors après, quand vous êtes la dernière et que vous êtes la première au bout du compte, qu'est-ce qu'on ressent ? Comment ça se passe ?
C'était terrible. Alors déjà, je vais vous la faire courte. Hein. Déjà, il fallait avoir la chance d'être sélectionnée.
Oui.
Hein, donc
Alors la sélection, ça a duré aussi quelques mois, c'est-à-dire que vous êtes allé dans un bureau chanter.
C'est ça. Je me suis retrouvée. Voilà, c'est ça. Je me suis retrouvée en fait dans un tout petit bureau avec deux personnes. Il y avait un petit magnétophone, pas de micro. Hein. Il fallait chanter comme ça en direct dans ce petit bureau et voilà, on vous dit chantez, on vous écoute chanter. Ce que je ne savais pas, c'est que nous étions 300 candidats quand même cette année-là.
Oui. Et pas de nouvelles ensuite pendant 3 mois et un jour on vous appelle.
Exactement. Pour me dire que voilà, j'avais été. Donc j'étais l'heureuse élue pour aller représenter le Luxembourg pour l'Eurovision.
Oui, car curieusement, vous ne représentez pas la France. Donc vous restez la dernière Française à avoir gagné, mais pour le Luxembourg.
À mon grand regret, vous imaginez que j'aurais tellement voulu représenter la France, qui est donc mon pays. Mais quand on a voulu présenter ma chanson en France, et là, c'est la sélection, il faut l'expliquer. Pourquoi le Luxembourg ? La sélection était faite déjà pour la France. Et c'est mon producteur, Rahim Saban.
Producteur
de Goldorak, oui. Et bien d'autres choses, bien d'autres séries,
tous les dessins animés,
etc. Ouais. Quelle la merveilleuse idée en fait d'envoyer la maquette au Luxembourg d'RTL, chez RTL,
oui.
Qui faisait cette année-là en fait la sélection pour l'Eurovision.
Oui, et curieusement, c'était une telle émotion qu'au moment de la rechanter, on a dû vous pousser sur scène.
Oui.
Parce qu'il y avait des bouquets de fleurs partout, vous n'en pouviez plus.
J'étais dans tous mes états, mais c'était vraiment un moment magique.
Oui, car vous avez battu les favoris qui étaient la Suède et Israël.
Oui.
Et pour l'histoire...
C'est dangereuse quand même.
Très
aussi.
Dangereuse, oui. Carola, 3e pour la Suède et Ofra Aza, 2e, je crois.
Exact.
Et la France a fini 8e avec Guy Bonnet.
Tout à fait.
On a vécu pire depuis.
Oui.
Alors, simplement, cette chanson, ensuite, ça vous a permis de faire le tour du monde.
Et oui, donc les demandes venaient de partout. Comme je vous le disais, Bon, je suis partie un peu partout dans le monde. Mon agenda était complètement surbooké. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je reçois plein de petits mots du monde entier. Hein. Donc, vous imaginez, quelques années encore plus tard, c'est vraiment resté encore dans les mémoires.
Oui, mais il fallait la chanter en plus en différentes langues, cette chanson.
Oui, oui.
Vous vous souvenez le nombre de langues?
En tout cas, anglais, allemand, c'était sûr.
Et alors, je crois qu'en plus, vous avez réalisé le rêve secret de votre mère.
Parce que... Oui, maman a toujours rêvé chanter. Et c'est vrai qu'à travers sa fille, elle réalisait son rêve.
Et votre père était fier de vous aussi?
Ah, ben fier. Et quand il présentait sa fille, c'est « Je vous présente Corinne Hermès ».
Et comment expliquer que cette chanson ait eu autant de succès? Elle est venue comment, cette chanson? Elle est venue par hasard, finalement?
Cette chanson est venue... En fait, je travaillais depuis, donc, comme je vous le disais, depuis l'âge de 16 ans. Je travaillais avec Jean-Pierre Miller, qui me présentait très souvent des chansons. Et puis jusqu'au jour où il m'appelle, il me dit « J'en ai une petite dernière à te faire entendre ». Mais en écoutant « Si la vie est cadeau », J'ai eu le frisson, un frisson terrible. C'est la première fois qu'une chanson me faisait un tel effet. Et je lui dis, écoute, il faut absolument l'enregistrer. C'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Et c'est lui qui a eu l'idée d'appeler Rahim Saban, qui, à son tour, en l'écoutant, il a eu le même coup de foudre. Mais lui, par contre, il a tout de suite pensé Eurovision. C'est ça qui était incroyable.
Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que c'était le premier succès. Et après, on vous a pris pour une débutante quand vous avez chanté ceci.
Esquisse-moi et refais-moi, exquise de toi, rien que pour toi, apprends les couleurs.
Dessine-moi.
Alors, pourquoi débutante?
Parce qu'on vous donne la victoire de la révélation féminine de l'année.
Oh, écoutez, moi, j'étais plutôt heureuse, Jacques, parce qu'en fait, ma première récompense, eh bien, fut celle du public, avec S'il avait cadeau, et la deuxième, la reconnaissance du métier. Bon, je comprends votre approche, mais j'étais quand même bien heureuse de l'avoir eue.
Mon approche, en tout cas, c'est celle de ceux qui ont critiqué cette récompense en disant, attendez, elle a eu le Grand Prix Eurovision, c'est pas une révélation.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous.
Mais en même temps, il y a eu deux autres candidates le jour où vous avez eu cette victoire féminine, dans une histoire présentée, je crois, par Michel Drucker. Il y avait Linda Williams, qui est aujourd'hui, qui a mis fin à ses jours, et Mélodie, qui est vendeuse de prêt-à-porter en Belgique.
Ah bon?
Oui.
Aujourd'hui?
Aujourd'hui.
Et d'ailleurs, Mélodie, qui a été aussi produite par Jean-Pierre Miller.
Voilà. Alors, finalement, c'est des moments heureux. Est-ce que cette révélation féminine vous a touchée? Ça vous a surprise?
Oui, en tout cas, pour moi, c'était une... Je vous dis, j'étais très heureuse quand même de recevoir cette récompense, cette reconnaissance, dirons-nous. Du métier, surtout.
Mais surtout, il y a eu des bons moments et des moments plus difficiles. Il y a notamment un album que vous avez enregistré qui n'est jamais sorti mystérieusement.
Un album qui n'est jamais sorti, donc on parle de ce qui vient après l'Eurovision.
Oui.
Oui, effectivement, nous sommes partis, j'étais partie à Los Angeles enregistrer cet album qui aurait dû sortir, mais je ne saurais jamais pourquoi cet album n'a jamais vu une sortie.
Et il existe cet album, ces chansons?
Non, il n'est jamais sorti. Et je ne saurais jamais pourquoi, en fait.
C'est fait partie des mystères.
Oui.
Et quelque chose qui n'est jamais sorti, l'album est sorti, c'est une comédie musicale que vous avez interprétée à vos débuts, avec Julien Clerc.
Adieu, les larmes de la terre.
Adieu, les grands peuples frères.
Là aussi, c'est un souvenir étonnant.
Alors, c'est mon premier... on va dire que c'est la première expérience professionnelle que j'avais, en fait. Et quelle expérience, parce que auprès de Julien Clerc. Et en fait, je me souviens que j'enregistrais ce jour-là le single, ce fameux single
« La vie rouge »
pour Claude Carrère. Et Bernard Estardi, grand arrangeur de nombreux artistes, on parle de Claude François, Michel Certeau et bien d'autres, était dans un studio, en fait, le studio d'à côté, avec toute une équipe. Et quelle équipe? Donc Jean-Claude Petit, souvenez-vous, Jean-Pierre Bourterre.
Qui travaillait avec Claude François, oui.
Étienne Redagil, Mort Schumann. Et il finalisait les arrangements de cette comédie musicale Transition Populaire. Et je vous la fais courte, c'est pour raconter un petit peu la petite histoire de cette belle aventure qui m'est arrivée. Et Bernard vient dans le studio, et donc il vient chercher un micro, il entend ma voix, et il m'amène, et il me fait écouter un titre, et il me demande si ça me plaît. Alors, je dis, c'est magnifique ce que tu me fais entendre là. Il me donne 10 minutes pour l'apprendre, et dans la foulée, Je chante un des thèmes de cette comédie musicale, et à la fin du titre, il m'offrait le premier rôle féminin auprès de Julien Clerc. Alors ça, c'était vraiment magique pour moi, un souvenir incroyable, exceptionnel.
L'album est sorti, il a eu un certain succès.
Alors l'album, seul l'album sortira, l'album sortira en double album, mais pas le spectacle.
Curieusement.
Et malheureusement, pour des problèmes politiques, m'avait-on dit.
Oui, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des problèmes de production? Là, je pense qu'on ne saura jamais non plus. Il y a une troupe qui s'appelle Musique et Spectacle en Montois, une association dans Lyon, qui a monté ce spectacle en octobre 1997 avec l'accord de Rodagile, qui a renoncé à ses droits d'auteur. Une troupe amateur a monté ce spectacle.
Ah bon? Oui. En quelle année?
1997.
Oh, bah ça alors.
Voilà.
D'accord.
Donc c'est la seule représentation qu'il y ait eu.
Eh oui, ça c'était bien dommage parce que vous vous rendez compte avec tous ces grands noms et
c'était gens... peut-être une comédie musicale un peu trop en avance sur son temps aussi.
Peut-être.
Il y avait eu Starmania qui n'avait pas été un gros succès à la scène et je crois que ça a découragé pas mal de producteurs.
Oui, mais la politique était de gauche et enfin.
C'était pas simple, effectivement.
C'était pas simple.
Et puis vous avez aussi une autre caractéristique. On a entendu votre voix à la télévision pendant tout un été.
L'amour est artiste, je t'aime, je t'aime.
Ça, c'est le premier feuilleton de l'été de TF1.
Oui.
Qui fait des grandes marées.
Oui.
Et vous êtes la voix du générique.
J'ai fait donc deux génériques, dont effectivement L'amour est artiste. Alors, c'est les grandes marées, c'était ce qu'on appelait à l'époque les sagas de l'été. Et c'est mon ami François Valéry qui m'avait offert cette magnifique chanson.
Voilà. Et cette série a été tournée à La Rochelle et à Floura, devant Fort Boyard,
oui.
Justement, bien célèbre depuis. Elle a été battue ensuite par Château des Oliviers sur France 2 en diffusion, mais ça, le feuilleton est quand même resté.
Oui.
Il y a une autre chose aussi étonnante, c'est que vous avez chanté Flagrant Désir pour un dessin animé un peu érotique.
Oui, Corinne Hermès. C'est vrai que c'était un dessin animé érotique, mais Manara, donc.
Grand dessinateur de BD.
Et quand j'ai entendu cette chanson, d'ailleurs, c'est le même auteur que Dessine-moi,
oui.
Qui m'avait fait ce magnifique texte. Donc, c'était Flagrant. Donc, Flagrant Désir, c'était le dessin animé. Et je chantais. Donc, le générique, c'était. J'ai un trou de mémoire.
C'était Flagrant Désir.
Non, Flagrant Désir, c'est le dessin animé.
Bon, de toute façon, j'ai pas le titre sous la main, mais.
Ah, j'ai un trou de mémoire.
Ça va revenir.
Bon, ça va revenir.
Il faut savoir que Manara, c'était le maître de la BD érotique. Et cette histoire, c'était les aventures torrides d'une jeune fille de bonne famille aux prises avec un homme invisible.
Oui, tout à fait. Donc, alors, M6 et Canal+, l'on va beaucoup passer. Hein.
Oui. Et vous avez une caractéristique aussi, Corinne Hermès, il paraît que vous enregistrez vos chansons dans le noir. Ou le plus sombre possible.
Oh là là, vous êtes drôlement informé. Hein,
c'est vrai?
Ah oui, c'est vrai. J'aime travailler dans le noir, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, je pense que ça m'inspire davantage.
Et alors, il y a aussi des couleurs que vous aimez, c'est le rouge, le blanc et le rosé, car vous aimez beaucoup le vin. Vous êtes une grande connaisseuse.
Oui, surtout le champagne.
C'est venu comment, ça? C'est une passion?
Le champagne?
Non, le vin en général, la connaissance des vins.
Oh, je ne suis pas une grande. Je ne connais pas non plus. J'en connais quelques-uns, mais c'est venu avec les années.
Voilà. Et il y a un grand cru qui existe, et c'est cet album intemporel dont on reparle dans quelques instants avec une autre date, le 12 novembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Corinne Hermès.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Corinne Hermès, 12 novembre 2019, sortie de Intemporel. En fait, tout le monde se demande pourquoi Corinne Miller est devenue Corinne Hermès.
Au départ, bon, j'ai commencé Corinne Miller parce que mon producteur
s'appelait
Jean-Pierre Miller et qu'il a pas été cherché très très loin et il a décidé de prendre Corinne Miller, voilà.
Et
Corinne Hermès, eh bien, c'est quand j'ai fait l'Eurovision que tout a changé.
Voilà. Et le nom est venu comme ça. Alors, Intemporel, c'est Corinne Hermès, un hommage à la chanson française avec des classiques revisités. Pourquoi cet hommage, Corinne Hermès?
Ça fait longtemps que j'avais d'abord envie de faire un album de reprise. Et que, voilà, et puis j'aime tellement, il y a tellement de belles chansons françaises. Et j'avais envie de rendre hommage à des artistes que j'admire.
Alors, des artistes étonnants, et la première chanson qui est dans cet album, curieusement, c'est une chanson de Catherine Deneuve, interprétée par Catherine Deneuve, qui s'appelle « Paris, Paris ». Alors, Alors, là aussi, c'est assez une chanson un peu parlée. Bon, ça ne fait pas penser au Paradis latin, mais presque. Pourquoi cette chanson?
Ah, vous trouvez?
Ben oui, ça aurait pu être une mélodie du Paradis latin.
Oui. Alors, en tout cas, quand j'ai découvert cette chanson, j'ai entendu ça un jour, et donc, chanson de 1994, hein, oui. Et duo, comme vous le disiez, Catherine Deneuve et Malcolm McLaren. Oui. Hein, j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé cette approche de... Enfin, je la trouve magnifique, avec un texte un petit peu à la Prévert. Vous savez, comme une sorte d'inventaire de cette ville magique, cette ville de lumière qu'est Paris. Et moi, j'adore Paris, j'aime Paris. J'avais vraiment, pour moi, c'était rendre hommage à Paris.
Voilà, il y a Prévert qui est cité, un Saint-Jean-Hiver d'Antoine Blondin, la Javanaise, il y a le Moulin Rouge, il y a Arletty, qui sont des symboles de Paris.
Complètement.
Et ça vous touche?
Et ça m'a touchée, oui, ça m'a touchée. J'ai vraiment aimé, je trouve que le texte est magnifique.
Et cette chanson est beaucoup plus parlée que chantée.
Oui, oui. Et j'avais envie d'avoir cet exercice aussi.
Et ce qu'on ne sait pas sur Catherine Deneuve, bon, on sait qu'elle a été doublée dans les films de Jacques Demy, mais elle a fait plusieurs enregistrements, et là surtout avec Serge Gainsbourg,
oui.
Souviens-toi de m'oublier. Et puis il y a eu beaucoup de duos à la télévision et au cinéma. Il y a eu Quand on scène Maïk Gérard Depardieu, et dans Potiche, elle chante C'est beau la vie. Elle aurait pu faire une carrière de chanteuse aussi.
Elle aurait pu. Et j'avais envie de lui rendre hommage aussi d'ailleurs, Catherine Deneuve.
Elle le mérite. Alors cet album au départ devait s'intituler Paris-New York. Hein ?
Oui. Oui, il devait, au départ c'était Paris-New York, encore bien informé. Mais ça c'est plutôt pour la scène.
Voilà,
ça c'est le... Voilà. Mais non, j'ai préféré du coup à réflexion l'appeler intemporel. Pourquoi intemporel? Bien parce que ce sont des chansons intemporelles. Ce sont des chansons qui ont marqué nos mémoires et...
Et voilà, il y en a une qui a marqué nos mémoires, mais même si elle vient de New York, justement, c'est Just a Gigolo.
Just a gigolo, everywhere you go, people know the part you're playing.
Encore un classique qui vous touche.
Oui, et je me suis beaucoup amusée en fait à reprendre cette chanson. Vous savez, bon, en commençant comme ça, le côté un petit peu Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, on commence comme ça doucement, et puis hop, après ça devient un peu plus festif. Voilà, je me suis amusée à faire ça.
Alors, il a fallu 4 ans pour faire cet album parce que vous avez hésité sur certaines chansons, Corinne Hermel.
Alors j'ai hésité, bon, le choix s'est fait. Le choix fut compliqué parce que c'était difficile. Imaginez, il y a tellement de belles chansons, n'en choisir que 10, ça a été un petit peu compliqué. Hein. Mais le choix s'est fait naturellement quand je les ai chantées, surtout, et que le ton y était.
Alors, Just a Gigolo, il faut savoir, au départ, c'est un tango qui a été créé à Vienne par un musicien italien, un librettiste autrichien. Et curieusement, c'est en France qu'il y a eu un certain André Maupré qui l'a traduit dans un film « C'est mon gigolo ». Et ensuite, c'est allé comme ça aux États-Unis où Bing Crosby l'a repris.
Eh oui. Donc, est-ce que c'est bien 1924?
1929.
Ah, 1929, presque. C'est presque.
Voilà. Alors, les crooners, vous les aimez, de toute façon?
J'aime les crooners, oui.
Je crois que votre idole absolue, c'est elle.
This heart is cold. Golden words he will pour in your ear.
Shirley Bassey dans Goldfinger.
Shirley Bassey, mon idole absolue. Vous savez, j'ai fait des kilomètres pour aller la voir, Jacques.
Ah bon?
Ah oui, oui. Shirley Bassey, ça a été... En fait, c'est une des artistes qui m'a donné vraiment l'envie de chanter quand j'étais toute jeune. Déjà, j'écoutais Shirley Bassey, j'adorais sa voix, cette grande voix comme ça. Et puis, très classe, très l'élégance. Enfin bon, c'est tout ce que j'aime, en fait. Et je me suis dit, dans cet album, c'est pas possible de reprise, de pas reprendre un Shirley Bassey. Et c'est vrai que j'aurais pu reprendre Goldfinger, mais voilà, j'ai entendu Apartment, qui est sorti en 2009, composé par Rufus Wainwright, et illustre musicien canadien. Et voilà, j'aimais ce côté un peu festif. Voilà, je trouvais que ce titre était plutôt... j'avais envie de l'insérer, en tout cas.
Mais Goldfinger, faut savoir, c'est la première fois que dans un James Bond, on met une chanson pop. La tradition est née à ce moment-là,
oui.
Et elle est restée. Et puis, il y a quand même une chanteuse française à qui vous rendez un hommage affectueux. C'est Françoise Hardy à travers Message personnel.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver.
Là aussi, c'est...
Comment ne pas reprendre un Françoise Hardy?
Oui.
Françoise Hardy, quel talent, quelle femme, J'aime tout chez Françoise Hardy. Elle écrit tellement bien avec musique de Michel Berger. Mais j'aime vraiment beaucoup Françoise Hardy.
Elle a écouté votre chanson, votre reprise, vous lui avez envoyé ?
Je ne pense pas qu'elle l'ait entendue encore.
Il faudrait, je crois que ça la toucherait beaucoup. Elle aime ce genre d'hommage. Et puis, vous avez un autre point commun avec Françoise Hardy, c'est la passion du rock. Quand elle était ado, elle adorait Paul Anka et Cliff Richard. Elle les guettait à la sortie des music halls pour avoir un autographe. Et vous, le rock, je sais que vous aimez aussi.
Le rock, oui. Surtout à la guitare.
Oui.
Je jouais à la guitare, le rock.
Avec un problème, vous êtes gauchère.
Bravo. Oui, une vraie gauchère.
D'ailleurs,
ça pose un problème parce que, mon instrument, comme je vous le disais, c'est la guitare. Oui. J'adore ça. Et j'ai commencé par la guitare électrique, mais trouver des guitares qui me plaisaient, très compliqué. Étant une vraie gauchère, il n'y a pas beaucoup de choix pour les gauchers.
Alors, il y a le choix, en revanche, parmi les chansons. Et dans cet album intemporel, parmi les 10 chansons, il y a un classique de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur.
Voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
La bande originale au départ de l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Et puis, il paraît que Michel Legrand a composé cette musique en s'inspirant du mouvement d'une symphonie pour violon de Mozart.
Ah, je ne savais pas. Vous m'apprenez quelque chose.
Il y a des liens.
En tout cas, mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu rencontrer Michel Legrand.
Oui, personnage fabuleux.
Ah là là, exceptionnel. Et quand j'ai enregistré cette version, je parle de l'interprétation, je l'ai fait d'un bout à l'autre comme ça, j'étais vraiment inspirée, j'ai réussi à, il me semble, avoir trouvé une ambiance un peu particulière sur cette chanson.
Oui. Les arrangements ont nécessité beaucoup de travail.
Parce que sur ce projet, Jacques, j'ai été vraiment à ce qu'on appelle tous les postes, le choix des instruments, des arrangements, l'interprétation.
Le montage aussi, par
ordinateur. J'ai même appris, alors Pro Tools, qui est un logiciel, vous connaissez Pro Tools ?
Oui, bien sûr.
Ah, vous connaissez, oui. Donc un logiciel professionnel de musique, pour les gens qui ne le savent pas. Mais en fait, ça m'a servi à construire, à monter... j'ai c'était plus simple, il était plus simple pour moi de le faire moi-même que d'expliquer à un musicien et pas avoir le résultat que je souhaitais puisque je savais exactement ce que j'avais envie d'entendre.
Voilà, donc on comprend que ça avait pris 4 ans.
Oui.
Et puis dans cet album intemporel, Corinne Hermès, il y a aussi un classique, le premier grand succès de Jacques Brel.
Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps, tes malentendus et le temps perdu.
Là, c'est pas facile non plus de reprendre une chanson comme
ça. C'est pas facile. Et justement, donc, effectivement, le plus difficile, c'est de les revisiter sans les dénaturer. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué.
Cette chanson de Brel vous touche particulièrement ?
Elle m'a toujours touchée. Toutes les chansons, d'ailleurs, qui font partie de cet album, encore une fois, le choix fut difficile, mais en les chantant, il se passe quelque chose, ou ça se passe ou ça se passe pas. Mais celle-ci fait vraiment partie des chansons qui m'ont toujours touchée.
Et cette chanson, c'était le premier succès de Brel.
Oui.
Il a eu le Grand Prix du disque. Et lorsqu'on lui a remis, alors qu'il était avant totalement inconnu, il dit « J'ai débuté pendant longtemps, pendant 4 ans
».
C'est l'esprit de Brel.
Oui.
Et puis, il y a quelqu'un qui est aussi célèbre dans notre cœur que Brel, c'est Barbara, à qui vous rendez hommage avec « Dis, quand reviendras-tu » ?»«
Dis, quand reviendras-tu » « Dis, au moins, le sais-tu » « Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère »
Là, on sent toute l'émotion et Barbara aurait pu l'interpréter de cette façon. Il y a des liens musicaux avec elle.
Oui, enfin, en tout cas, c'était incontournable. Pour moi, c'était évident de reprendre à Barbara. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Et puis, pour tout vous avouer, ma grand-mère adorait cette chanson. Et pour moi, c'est une manière de me rapprocher d'elle. Voilà.
Ce qui est étonnant, c'est que votre grand-mère aimait cette chanson, mais que la génération d'aujourd'hui adore Barbara. Ça prouve que la chanson française touche encore les cœurs.
Et oui.
C'est quelque chose d'important pour vous ?
Très, très important.
Et dis, quand reviendras-tu? Ceux qui vous aiment vous posent la question par rapport à la scène, je suppose.
Oui. Si je, il y a la scène prévue.
Ah bah justement, oui.
Oui, en tout cas, c'est en préparation actuellement. Et voilà, c'est un spectacle qui sera plutôt intimiste, un peu glamour.
Et vous évoquerez ces chansons.
Comment ?
Où vous évoquerez ces chansons.
Oui, puisque effectivement, cet album est conçu aussi pour la scène.
Alors, naturellement, on revient à l'anglais. Il y a une chanson incontournable dans cet album aussi, chanson que vous interprétez depuis vos jeunes années, je crois, Corinne Hermès, c'est New York, New York.
I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make him there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Là aussi, c'est un souvenir lointain.
C'est un souvenir lointain. Pour moi, ça évoque... Il y a quelque chose qui me fait penser au paradis latin, cette époque du paradis latin. Vous voyez, c'est un... Voilà. Et puis, c'est un hommage à Liza Minnelli.
Que vous avez rencontrée ou non ?
Liza, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer.
C'est qu'elle vient souvent à Paris, elle adore Paris, elle adorait Aznavour. Ils ont été très très liés et Aznavour l'a beaucoup aidée à venir en France lorsqu'elle voulait débuter à Paris.
Ah oui, ça je ne savais pas.
Alors, toutes ces chansons finalement, c'est le point de départ d'autre chose pour vous ? Vous avez envie de refaire vos propres chansons ou vous avez envie de continuer dans ce style ?
Oh bien, je pense qu'il y aura une suite, probablement une suite, et puis mes propres chansons, ça j'en ai fait toujours, tout au long de ma vie, je continuerai, c'est quelque chose qui va m'animer toute ma vie, la composition et la création.
Oui, mais là, est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire une œuvre de célébrité publique en défendant ce répertoire qu'on dit parfois plus tellement à la mode?
C'est-à-dire?
Bon, on dit, oh, c'est, les chansons françaises sont dépassées, ça n'intéresse plus personne.
Vous croyez?
Non, je ne crois pas, mais certains le disent.
Oh, ben écoutez, ils ont bien tort.
Voilà.
Ça fait partie quand même de nos... Non, c'est pas du tout.
C'est
bien
notre
au contraire.
Patrimoine. Et vous le défendez dans cet album intemporel avec ces 10 chansons. Merci Corinne Hermès de l'avoir enregistré.
Merci à vous.
Et puis, ben, à bientôt sur scène avec ce répertoire et vos propres succès.
Merci.
Merci. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lai comme tous les jours. Ensuite, ce sera Trina McDean. Et ensuite, les vraies voix de Sud Radio avec Christophe Bordet et toute sa petite bande. Et vous, revenez quand vous voulez, parce que nous parlons vrai, comme vous, ici à Sud Radio.
Merci, Jacques.
À très bientôt et rendez-vous-nous demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci, à demain.